C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Alors, disons que Pisbille au Parti libéral, la chef Dominique Anglade qui a décidé d'expulser la députée Marie-Claude Nichols. Raison, disons, pas très claire, là, mais de ce qu'on entend entre les branches, on la soupçonne d'avoir coulé des infos à des journalistes, dont notre collègue Jonathan Trudeau. Elle voulait une job, elle l'a pas eu, elle a refusé les autres mandats. Bref, expulsée du caucus. Nathalie, comment tu vois ça?
Ben voyons donc, c'est du grand n'importe quoi, ça. Voyons donc, accusé, tu dis, d'avoir coulé des informations à Jonathan Trudeau, c'est ouais. Du grand n'importe quoi. Et c'est pas facile, les chicanes de famille. C'est, premièrement, c'est une nouvelle que personne n'attendait. Moi, ça m'étonne énormément. Je n'en reviens tout simplement pas. Pourquoi? Parce que Marie-Claude Nichols, c'est la députée parfaite. La députée dont rêvent tous les chefs de parti. La seule, en passant, du PLQ dans le 4-5-0. C'est une députée qui est là depuis plus de 8 ans. J'entendais hier Listerio sur les ondes de LCN dire que c'est la députée qui cumule le plus grand nombre d'heures de travail en commission parlementaire. Alors, c'est une députée qui est loyale, qui fait bien son travail. Ce qu'on lui reproche, dans le fond, c'est d'avoir demandé la vice-présidence, la deuxième vice-présidence de l'Assemblée nationale. Dominique Anglade lui a préféré un autre candidat, un autre député. Bon, on lui a probablement proposé un autre rôle dans le cabinet fantôme, ce qu'elle a refusé. Conclusion, ben, les officiers parlementaires et Mme Anglade s'en sont pris à elle et ont dit, ben, tu veux brader notre autorité, ben, ciao, bye, on t'expulse. Moi, j'ai envie de dire ce matin, entre autres, Enrico Ciccone qui défend cette position, excusez-moi, M. Ciccone, les députés, là, c'est pas des béni oui-oui, là. Je veux dire, ils peuvent dire parfois non, ça me plaît pas. Et je terminerai en disant que c'est une erreur qui va coûter très cher à Dominique Anglade. Elle est dans un contexte de leadership très fragilisé. Et j'ajouterais que c'est une décision qui pourrait précipiter son départ du PLQ, selon moi.
Ben, je vais te faire entendre un extrait d'entrevue. Je vous fais entendre un extrait d'entrevue avec Listerio ce matin. On écoute. Pour reprendre l'expression de mon ami Claude Poirier, est-ce que Mme Anglade vit sur du temps emprunté?
Ben, elle vivait déjà sur du temps emprunté parce que c'est la pire défaite de l'histoire du Parti libéral du Québec. Je pense qu'elle a engendré elle-même le début de la fin avec le geste qu'elle a posé envers Marie-Claude Nichols.
C'est
absolument. Lise a raison. Je dirais plus loin que ça, Paul. Les carottes sont cuites pour Dominique Anglade. Là. Si elle veut rendre service au parti, elle pourrait songer à réfléchir à ne pas passer à travers le vote de confiance. Je pense que ça permettrait à beaucoup de monde d'économiser temps et énergie et ça lui permettrait de sortir avec une certaine grandeur de ses responsabilités qu'elle assume déjà depuis quelques années.
Luc?
Oui, mais en même temps, moi, j'ai des questions plus que des réponses. Là. Nathalie, tu dis ça, mais y a-tu quelqu'un qui a sonné à la porte pour la remplacer? Je veux dire, le Parti libéral est en l'opposition pour au moins 8 ans. Là. Moi, je persiste à dire que le Parti libéral est le seul parti qui peut remplacer la CAQ dans la situation politique au Québec actuelle. Les autres partis ont des positions fortes, puis ont choisi ces positions fortes-là, Parti conservateur, Québec solidaire, Parti québécois, mais qui font qu'une partie de l'électorat ne les suive pas. Le Parti libéral est un parti plus malléable, qui est capable d'essayer de plaire à tout le monde. Et la CAQ va avoir fortement déçu, peut-être à la suite d'une crise économique, quelque chose comme ça, ils vont pouvoir lever la main en disant « c'est nous qui allons aller au pouvoir ». Mais en attendant, qui peut devenir chef? Qui veut être chef du Parti libéral? Tu sais, c'est quoi? C'est 95 000 piastres, puis t'as une commission supplémentaire de 76 000 quand t'es chef du parti, ça fait 160 000 $. Je sais que pour la moyenne des ours, c'est beaucoup d'argent, là. Mais pour un chef d'entreprise ou un avocat de haut nom, un ancien ministre qui a fondé sa propre entreprise, qui va y aller, là?
Oui, mais tu vois, Luc, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais j'ai pas de réponse, bien qu'il y a toutes sortes de rumeurs qui circulent. Sauf que, rappelle-toi, au Parti québécois, on n'avait jamais anticipé l'arrivée d'un Paul Saint-Pierre Plamondon. Pourtant, c'est arrivé. Alors, la vie pourrait peut-être causer des surprises au Parti libéral du Québec, mais ce qu'a fait Dominique Anglade et ses officiers parlementaires, c'est totalement inacceptable parce qu'il faut savoir que l'expulsion, c'est un moyen exceptionnel auquel un parti politique a rarement recours.
Ben, ça prend une faute grave, normalement, pour expulser
c'est
quelqu'un d'un caucus.
On dirait qu'il y a une animosité.
C'est une faute grave.
Ben, t'sais,
oui.
Écoute, si quelqu'un... il y avait des allégations à un moment donné, j'oublie son nom, là, Slavounos. Ils l'ont sorti, mais c'est clair, sur les bases d'allégations. Ce que je veux dire, c'est que c'est un clash avec de philosophie avec le chef ou la chef, ou une faute professionnelle grave. Puis là, tu dis, j'ai pas le choix de le tasser ou de la tasser.
Ou alors, une incapacité de gérer l'animosité.
De la part de la chef.
Ben oui. Donc. Mais moi, il y a deux possibilités, deux hypothèses qui ont été évoquées. La première hypothèse, c'est Madame Nichols, elle sait que Anglade t'offre pas, donc elle peut se permettre un geste d'éclat. Puis dire, moi, j'accepte pas ce que tu me proposes, puis sors-moi, ça me dérange pas. Ça, c'est une possibilité. Ou l'autre possibilité, qui est Anglade, qui se dit, finalement, tous ceux qui ont été élus, ils l'ont été grâce à moi, il reste plus beaucoup d'anciens. Je tasse celle qui me dérange, puis après ça, j'ai la voie libre, puis je suis tranquille pendant quelques années. Mais je sais pas, c'est quoi la deux... je sais pas c'est laquelle de ces deux possibilités.
Mais si elle était à la tête d'un caucus de 70 députés, elle pourrait réfléchir, comme tu viens de réfléchir, Luc. Mais actuellement, ce n'est pas le cas. Pire désastre en termes de vote récolté chez les francophones. Puis Lise disait à ton micro, Paul, qu'elle est, dans le fond, l'artisane de ses propres malheurs parce que le parti a pris certaines décisions qui ont étonné tout le monde, entre autres sur l'enjeu lié à la loi 96, la loi qui visait à améliorer la loi 101. Beaucoup de libéraux ne se retrouvent plus dans ce parti qui s'est complètement transformé depuis qu'il est à la tête du Parti libéral du Québec. Alors, puis Maryse Nicole, Luc, excuse-moi, mais tu savais que c'est sûrement comme moi que les députés, ils peuvent dire non. Là. Moi, j'ai déjà dit non à M. Charest. Là. Il voulait me nommer leader du gouvernement. J'ai dit non, il n'y en a pas question. Lise Thériault disait la même chose. Alors, ça fait partie...
La décision de nommer Franz Benjamin, là. Je m'excuse, mais...
T'excuses?
Mais je m'excuse, j'en dis pas plus.
Tu viens d'en dire beaucoup.
Le pas plus, ça nous intéresse, Luc. Le pas plus, ça nous intéresse.
Ben, écoute, honnêtement. Dans le cabinet, ils prétendent qu'il n'avait pas été à la hauteur comme chef du caucus. Puis moi, je peux dire qu'il n'a pas eu une réputation exemplaire comme président du conseil municipal. C'est quelqu'un qui faisait beaucoup d'erreurs. C'est quelqu'un de bonne volonté. Il paraît qu'il est très bon aussi dans son comté. Mais je veux dire, c'est pas comme si elle avait misé sur Franz Benjamin parce que c'était l'étoile du match. Là. On dirait que c'est plutôt pour écarter l'autre.
Mais cette décision dit long sur le type de leadership de Dominique Anglade. Hein. C'est un leadership de confrontation plutôt que de collégialité, de consensus. Elle a tellement besoin de rassembler les députés autour d'elle, ce qui me laisse croire qu'elle a l'épiderme extrêmement sensible. Je ne sais pas si Jonathan, Paul, t'a parlé de la résistance qu'elle a affichée suite à l'élection du nouveau président, qui est un jeune.
Ils ont étiré ça. Puis écoute, semble-t-il que hier, 17h15, caucus téléphonique, les députés n'ont pu poser aucune question. Ça a duré 5 minutes.
Mais voyons, pourquoi tu convoques les députés?
Pour les informer de ta prise de position. Et t'as 5 minutes.
Moi, je connais du monde qui gère comme ça aussi.
Ce que ça laisse entendre, c'est que là, elle est paniquée. Elle est probablement paniquée. Puis la façon qu'elle trouve d'asseoir son autorité, ben, c'est de brader tout le monde, c'est de confronter tout le monde, puis c'est d'imposer la loi du silence. Alors que c'est pas du tout un parti qui est habitué à ça.
Pas tant, non. Puis écoute, un caucus qui dure 5 minutes au téléphone, là, puis que tu poses aucune question, voici, je t'informe que, là. Quand ça raccroche, qu'est-ce que tu penses qu'il se passe? Toi? Ils s'appellent tous et toutes. C'est pas mal
sûr. Exactement.
On s'arrête pour la pause. Au retour, c'est vendredi, le rapport des commissaires.
La commission Normando-Ferrandaise.
Très bien. C'est l'heure du rapport des commissaires, Luc.
Fricassé aujourd'hui. Fricassé.
Fricassé. Ouais,
Blanche Lemko Van Ginkel, est-ce que ça vous dit quelque chose?
Non.
Non, mais bien, c'est elle avec son mari... C'est Daniel, son nom. Ont sauvé le Vieux-Montréal. En 1960, la ville de Montréal a un plan pour faire une autoroute, qui allait longer.
Les belles années.
Oui, c'est les années de développement, du développement économique. Puis, donc, ils veulent raser le Vieux-Montréal. Il y a un rapport de la ville qui est sorti. Dans le Vieux-Montréal, il y a à peu près 3 ou 4 buildings qu'il faut être sauvé. Il y a Bonaventure, Hôtel de Ville, la Maison Papineau. Il dit le reste, c'est de la merde. Puis, et d'ailleurs, c'est vrai que c'est en déliquescence, là. C'était abandonné, là. Il y avait 600 habitants dans le Vieux-Montréal. Mais le couple Van Ginkel habitait dans le Vieux-Montréal. Était née en Hollande, était venue ici, était retournée en France pour faire ses études auprès de Le Corbusier, d'ailleurs. Son mari est architecte. Eux autres, ils déposent un rapport. Ils disent, non, c'est une perle, le Vieux-Montréal. Personne n'y croyait. C'est une perle, faut pas. L'autoroute, là, devait raser le Vieux-Montréal, puis après ça, il rentrait dans le canal Lachine qui aurait été asséché pour l'occasion. Et c'était, voilà. Et c'était une époque où on se disait, écoute, et ils ont réussi. Ils ont réussi en déposant un rapport au port de Montréal à faire arrêter la patente. Et l'autoroute a été déplacée là où il est. Hein, c'est le projet de SNC-Lavalin à l'époque, pas SNC-Lavalin. Là où il est, un peu au nord du Vieux-Montréal, on n'est pas assez proche. Juste pour vous dire comment que des fois, Tu sais, comme, c'est quelque chose qui a l'air, pas l'air d'avoir de valeur. Et la madame Blanc, eh bien, est morte la semaine passée, jeudi, à Toronto, à 100 ans. Et après ça, c'est ce même le couple-là qui avait formé une firme d'architectes qui ont déposé les plans pour Expo 67.
Ah, ouais.
Beau
petit CV, quand même.
Montréal sans l'Expo 67 puis sans le Vieux-Montréal, ça aurait eu l'air de quoi? Merci, les Van Ginkel. Jeudi, le ministre chinois. Jeudi, ça c'était hier, hein? Ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi. Il avait rencontré, à la sortie de l'ONU, il avait rencontré son homologue des Affaires extérieures, étrangères de l'Ukraine, il y a environ un mois. Tout le monde s'est dit, ah, ça y est, la Chine va abandonner l'URSS, la Russie. C'est fini. La Russie elle est isolée. Eh bien, hier, dans une discussion avec Lavrenko, écoutez la phrase de Wang Yi. La Chine soutient résolument la partie russe pour surmonter les difficultés et éliminer les ingérences extérieures. C'est assez clair pour tout le monde, ça. Si quelqu'un se demandait si la Chine allait appuyer la Russie, eh bien oui, la Chine va appuyer la Russie big time, même si on souffle parfois le chaud et le froid. Là, c'est assez clair et c'est très, 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 très inquiétant. Donc, ils vont recevoir le pétrole et le gaz russe à long terme. Ils vont fournir des armes. Pendant ce temps-là, les États-Unis, autre surprise hier, dans la même journée, hier, c'est journée relations extérieures, là, relations étrangères. La doctrine nucléaire américaine, ça a toujours été dit, on attaque seulement si, on s'en sert seulement si on attaque. Et là, la doctrine, elle a été la même, mais elle a changé un petit peu. À la défense du pays, de ses partenaires, de leurs intérêts, s'ils sont attaqués par des armes nucléaires ou conventionnelles qui pourraient générer beaucoup de destruction. Je trouve qu'on s'en va tambour battant vers une situation que je ne comprends pas.
Ben, c'est Poutine qui a dit hier que la décennie qui s'amorce, si on veut, c'est celle la plus inquiétante depuis la Deuxième Guerre mondiale.
Et pour une fois, il a raison. Moi, en tout cas, je comprends pas tout ce qui se passe. Pourtant, j'ai lu un peu dans le domaine. Ah, la FAE, la Fédération d'enseignement autonome d'enseignement du Québec, a déposé hier ses demandes en vue des négociations, parce que les négociations, c'est sur plusieurs années. Là, ils ont obtenu une convention collective au printemps passé, mais ils amorcent le processus pour la prochaine convention collective. Ça prend des années. Ils demandent 7,8% pour rejoindre l'Ontario, plus 4% pour l'inflation, ça fait 11,8%. En déclarant la phrase suivante, si les médecins ont pu avoir la parité avec l'Ontario, je vois pas pourquoi nous on l'aurait pas. Oui, mais Simonac, s'il y a quelque chose qu'on n'a pas fait de correct dans la gestion de la santé au Québec, c'est bien ça. C'est bien de donner un revenu aux médecins sans égard à au coût réel des choses et au revenu moyen des personnes au Québec par rapport à l'Ontario. Je comprends pas la FAE. Moi, j'aime bien la FAE, là, mais par pitié, les négociations qui s'en viennent ne doivent pas être uniquement sur les salaires. Il y a eu une augmentation des salaires pour les profs qui rentrent, il y a eu une négociation sur les salaires pour les profs qui sortent. Un prof qui sort, c'est 92 000 piastres à peu près. Si t'es rentré à 25 ans, t'as ta retraite après 32 ans, t'as 57 ans, t'as une retraite à vie, t'as eu 2 mois de congé par année, c'est pas des mauvaises conditions. Elles peuvent être améliorées à la marge, correct, mais c'est pas des mauvaises conditions. Et ce qui est mauvais, par contre, c'est conditions de travail. C'est le fait qu'on les met dans des usines à décrochage puis qu'il n'y a pas de soutien, puis qu'il y a pas de vision au ministère de l'Éducation pour changer cette réalité-là. Moi, j'aurais m'attend à des propositions plus structurantes de la FAE là-dessus.
Nathalie.
Bernard est arrivé. Bernard est là, mon cher.
Bernie, s'il vous plaît, change-nous ça.
Let's go, Bernie.
Let's go, Bernie. Oui, n'écoutant que son courage, Geneviève a enfilé son casque blanc. Je parle de Geneviève Guilbeault, évidemment, qui s'est rendue sur le chantier du tunnel. Avez-vous remarqué que son casque était attaché? D'ailleurs, je me demande, est-ce que maintenant, il y a une nouvelle consigne sur les chantiers? Faut attacher son casque de sécurité, qu'il soit blanc ou d'une autre couleur? Je pose la question.
Moi, je pense qu'elle aurait dû l'attacher comme Mary Poppins avec un grand foulard autour.
Non, mais ça m'a frappé, honnêtement. C'est la première. Peut-être qu'une nouvelle consigne. Je pose la question. Peut-être les auditeurs vont répondre. Pas question d'interdire l'auto solo parce qu'elle n'a pas fait que visiter le tunnel. Elle s'est exprimée sur l'enjeu de l'interdiction de l'auto solo aux heures de pointe. Mais elle s'est empressée dans la même phrase d'ajouter on est dans la très forte recommandation. Là, il faut savoir lire entre les lignes. Elle nous dit, on ne veut pas arriver là, mais si on n'a pas le choix, ça se peut qu'on se rende jusque-là. Alors, petit conseil pour Mme la ministre, n'allez pas sur ce terrain-là. Si vous trouvez que ça a brassé dans le troisième lien, si vous trouvez que ça a brassé dans le dossier du tramway, je vous annonce que ce sera de la petite bière comparée à la volée de bois vert que vous allez manger, parce que les citoyens sont sont fortement opposés à cette idée d'interdire l'auto solo lors des heures de pointe dans le tunnel. Mesdames et messieurs, roulement de tambour, Hérouville est de retour, croyez-le ou non. Le National Post a publié un article sur la volonté de cette communauté de 1300 habitants de la Mauricie d'accueillir des immigrants après avoir adopté il y a 15 ans son fameux code de conduite pour les immigrants.
Quoi?
Oui, tout à fait. Là, il déroule le tapis rouge parce que, comme tous les villages du Québec, plusieurs villages du Québec, qui sont dévitalisés, ben, souhaitent accueillir des immigrants.
Ah, OK. J'avais compris le contraire.
Oui.
Ah, super.
Non.
Okay,
mais c'est un retournement de situation incroyable pour Hérouville. Et rappelez-vous, c'est Hérouville qui a plongé le Québec dans la crise des accommodements raisonnables. Il y a plusieurs villages en Mauricie qui ont emboîté le pas. Hérouville est même prêt à offrir des logements subventionnés.
Les chiffres du recensement qui montrent que les immigrants vont beaucoup vers les villes de moyenne taille puis les petites villes par rapport aux grands centres.
J'ai pas vu ça, tant mieux.
En tout cas, ça a l'air d'une bonne tendance. Puis pas tant l'Ontario, le Québec, les provinces d'Atlantique.
Oui. Ah.
Ouais.
C'est très, très bien. Autre nouvelle, nouvelle armée voit le jour aux États-Unis, l'armée des justiciers autoproclamés. Décidément, ils sont extrêmement imaginatifs, nos amis américains. Une armée citoyenne pro-Trump, sans trop s'étonner, qui se mobilise pour surveiller le processus électoral lors des élections de mi-mandat. Après, vous avez peut-être vu cette nouvelle, l'achat de Twitter. Finalement, Elon Musk a finalement acheté le Twitter, qui veut faire de cette plateforme une plateforme infernale où tout est permis. C'est une très, très mauvaise nouvelle pour Joe Biden et les démocrates, mais également pour la démocratie américaine. Et je voyais cette semaine, peut-être avez-vous vu cette manchette, il y a près du tiers des partisans du Parti conservateur du Québec qui doutent des derniers résultats électoraux. Pouvez-vous me dire ce qu'ils mettent dans leur café? Non, mais c'est pas possible. Y a-t-il quelqu'un qui va leur expliquer ce que signifie le mot manipulation? Parce que cette gang-là est manipulée.
C'est toi qui es manipulé, c'est toi qui ne sais pas. Tu t'en rends même plus compte. C'est pas possible.
Et terminons la semaine de belle façon, les amis. La retraite n'est pas dans les plans de Carey Price. À 10 millions par année, vous me direz, de contrat, ça se comprend. Le karaté n'est plus hors la loi au Québec. Et Martin Saint-Louis, entraîneur du Canadien éternel optimiste, y est allé d'une déclaration remplie d'espoir. On a trouvé une façon de gagner.
Merveilleux.
Amuse-toi.
Amuse-toi, c'est ça qui est important. C'est le mandat ici aussi. Vous venez à la station, vous entrez dans ce studio, vous venez travailler, amusez-vous.
Amuse-toi.
Exactement. 9h19, merci, bon week-end.
C'est 23.